Est-ce que vous avez dit amen à cette prière? Bon, donc vous voulez devenir meilleur. Alors, je vous ai donné un verset il y a quelques semaines par rapport à la pratique de la justice. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 10 et au verset 35. Est-ce que vous vraiment, vraiment, il y a quelqu'un ici qui voudrait croire que quand Dieu vous regarde, Dieu puisse dire, tiens, ce chrétien, il m'est agréable. Est-ce que vous savez qu'on peut être agréable à Dieu? Oui. Il y a un texte qui l'exprime très bien, il y en a plein. Mais celui-ci est quand même fort, dans Actes au chapitre 10 et au verset 35, il y a une vérité. Une vérité qui est introduite dans le sujet qui nous préoccupe depuis un mois. Vous vous rappelez que Jésus a dit avant de remonter au ciel, faites des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, notre but, si on veut devenir meilleur, si on est d'accord avec la prière qui vient d'être faite, il faut que nous devenions agréables à Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui, parce qu'il va faire les choses que Dieu lui demande et le faire volontairement, il va être agréable à Dieu. Est-ce qu'il vous plaît ce verset? Acte 10, 35. Il fait partie, moi, des versets que j'ai surlignés dans ma Bible. En toute nation, partout, donc en France, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Je l'ai dit maintes fois, ça n'a rien à voir avec la justification. C'est la pratique de la justice. C'est-à-dire, ce que Dieu me demande, je le fais. Car je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'on trouve dans une église des chrétiens équilibrés. Est-ce que vous n'avez pas été parfois choqué par le comportement de chrétiens qui étaient déséquilibrés? Allez, on le dit, répondez-moi vite fait, mais c'est pitoyable un chrétien déséquilibré. Avec l'enseignement de la parole de Dieu, il me semble moi qu'un chrétien devrait être équilibré. Oui ou non? D'où cela vient-il que tant de chrétiens soient déséquilibrés? Eh bien parce qu'ils ne respectent pas toute la parole de Dieu. Cela peut être venir des pasteurs qui n'enseignent pas toute la parole de Dieu, mais un chrétien, il doit respecter toute la parole de Dieu. Si je prêchais que sur les dons spirituels. Imaginez, si je vous dis, j'ai quelques années encore jusqu'à la retraite, ben je vais vous prêcher pendant 4 ans sur les dons spirituels. Que sur les dons spirituels pendant 4 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est la vérité. Mais est-ce que ça serait équilibré? Bien sûr que non. Et c'est ce que je veux que nous comprenions. Un chrétien, il doit être équilibré. Par exemple, on va prendre deux versets. Un verset, par exemple, dans Timothée, Paul demande aux chrétiens quelque chose. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Ce soir, je voudrais que nous comprenions bien qu'un chrétien, il cherche l'équilibre. Vous savez que le mot équilibre n'est jamais dans la Bible. Vous ne le trouverez pas. Prenez n'importe quelle concordance, vous ne trouverez pas le mot équilibre. Et pourtant, la Bible est un livre qui ne peut que nous enseigner à être des chrétiens équilibrés. Par exemple, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Est-ce que vous réalisez que la vie est aussi un combat? Est-ce que c'est un combat la vie? Oui, c'est un combat. C'est un combat. Ce combat peut être très mal vécu, comme il peut être bien vécu. D'ailleurs, Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, « Combat, le bon combat de la foi. » Je me souviens, moi, avoir dit à Dieu, tu sais, Seigneur, moi, le combat, je ne trouve pas que c'est un bon combat. En plus, dans d'autres versions, je crois que le mot exact, c'est le beau combat de la foi. Qu'est-ce que vous avez dans votre version? Il n'y en a pas qui ont le beau combat de la foi? Non? Si vous avez des commentaires, je crois que le mot exact, c'est le beau combat de la foi. Enfin, vous le vérifierez. Donc, combat, le beau combat de la foi. Donc, on pourrait dire, voilà, la vie est un combat. La vie est un combat. Il faut toujours combattre. Il y a des chrétiens, ils sont obsédés par le combat. Mais il est dit le combat de la foi. Donc, quel mot on pourrait mettre à la place de la foi? De la confiance, exactement. Combat, le bon combat de la confiance. Déjà, ça, vous comprenez pourquoi ça devient un bon combat? Parce que c'est pas notre combat, mais c'est un combat où je me confie vraiment dans la grâce de Dieu. Ça, c'est un verset un petit peu plus loin, par exemple. Un autre thème, Hébreux chapitre 4. C'est important, mes frères et sœurs, si nous voulons être des disciples digne de ce nom. Il y a quelqu'un ici qui veut être agréable à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment? Pour qui c'est important que quand Dieu vous regarde, vous sentez l'approbation de Dieu? Est-ce que c'est important?
Ben oui, c'est important.
Et les chrétiens, je peux vous dire que... moi, j'ai discuté avec un chrétien dernièrement. Et une chose est certaine, d'ailleurs, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas converti, vous avez un témoignage lamentable. Il n'est pas agréable à Dieu. Et quand il doit parler, il doit faire peur aux gens. Tellement c'était ridicule tout ce qu'il a pu me dire. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. On vient de parler du combat. Et le chapitre 3 et le chapitre 4 des Hébreux, lui, nous parle de quoi? D'un repos. Voyez, Hébreux chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Regardez bien ce qui s'est passé. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Voyez ? C'est terrible ça, quand une prédication ça ne sert à rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. On peut lire notre verset, verset 11 du chapitre 4. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit l'autre jour? Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Donc voyez, si on synthétisait les deux versets que nous venons de lire, il y a un verset qui nous exhorte à combattre le bon combat et un verset qui nous enseigne à rentrer dans le repos. Vous êtes d'accord? C'est quoi le plus important pour vous? Le repos ou le combat? Les deux, voilà. Les chrétiens équilibrés, ils auront toujours cette intelligence, ils ne vont pas choisir, même si on a besoin de repos, on a aussi besoin de combattre. On est fortifié par le combat. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dimanche. Non, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire. Quand il est dit, fortifie-toi dans le Seigneur, prenez toutes les armes. Donc, vous voyez, on est fortifié par le combat. De la même manière qu'on est aussi fortifié par le repos. Fortifie-toi dans la grâce. Alors, un texte qui va nous aider à comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que ce à quoi je veux nous amener, c'est que nous apprenions à régler les problèmes. Parce que des problèmes, il y en a. Dans une église, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes? Pourquoi l'église de Corinthe a reçu deux lettres importantes? Parce qu'il y avait des problèmes dans l'église. Alors, un chrétien, il doit être sérieux. Celui qui le craint et qui pratique la justice, donc la justice, c'est tout ce qui est écrit, lui est agréable. Alors il y a un texte moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est dans 2 Pierre au chapitre 1er. Je vous donne ces textes, vous avez remarqué que je ne les commente pas trop, pour que vous puissiez vous les méditer. Vous savez, moi quand je me suis converti, ce que je faisais, c'est que le dimanche je prenais des notes, et jusqu'à la réunion du mardi soir, mes cultes personnels, c'était les notes du dimanche matin. Du mercredi matin au dimanche matin, c'était les notes du mardi qui me servaient pour faire mes cultes personnels. Et c'est comme ça que j'avançais, je ne savais pas que je serais pasteur, mais vous voyez, je peux vous assurer que ça m'a beaucoup servi. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2, on va lire jusqu'au verset 11. Je voudrais que vous appreniez à méditer ce texte. Vous l'avez déjà lu ce texte? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Combien de fois vous l'avez lu? Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par la connaissance de Dieu et de Jésus. Alors, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen, encore une fois, de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Je ne sais pas si on le réalise ce qu'on lit. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous remarquerez que chaque fois qu'il nous est demandé quelque chose de positif par rapport à la vie de l'esprit, il nous est en même temps rappelé que nous devons nous séparer de ce qui est mauvais. Verset 5. À cause de cela même, fait donc du fait de participer à la nature divine, il faut que vous appreniez à méditer des textes. En fait, qu'on peut participer aux précieuses promesses, etc., à cause de ces choses. Faites tous vos efforts. Alors pourquoi? Pour joindre à votre foi la vertu. C'est quoi la vertu? Tiens, c'est quoi? Ma femme, elle me dit souvent, Gérard, tu prêches, mais je suis sûr qu'elle me dit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que certains mots veulent dire. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, tiens, au mot vertu? C'est exact, ouais, non, c'est trop général ça. ce que dit Caroline, ça tient debout. C'est-à-dire, c'est cette disposition de cœur. La vertu, si on devait donner une définition, c'est ça. C'est une disposition de cœur qui nous pousse vers le bien. C'est ça, la vertu. Quelque chose qui nous pousse vers le bien. Voilà, on pourrait le définir peut-être le mieux comme ça. Donc, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Mais on pourrait dire, mais tiens, mais ce que vous citez là, c'est des fruits de l'esprit ou c'est le résultat des efforts? Puisque le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est pas l'amour, la patience, oui ou non? Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque là, c'est le résultat de nos efforts. Oui ou non? Faites tous vos efforts pour. Donc, il faut que nous comprenions bien qu'il y a il y a des fruits qui sont le résultat de notre communion avec Dieu, et il y a des fruits qui sont le résultat de nos efforts. Et vous avez remarqué, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Peut-être que vous avez autre chose, non? Peut-être la charité, vous voyez? L'amour, la charité, tiens, c'est pareil, l'amour et la charité. Vous voyez, on est avec les... là, c'est l'étude avec les stagiaires, vous voyez? Car si ces choses, regardez bien, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, donc c'est le résultat, ça, d'une méditation qui est réelle, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la quatrième fois qu'on lit le mot connaissance. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance de Jésus. C'est bien la connaissance intellectuelle, mais ça, si c'est que la connaissance intellectuelle, ça fait plaisir, c'est tout. Mais connaître Jésus, c'est quand même autre chose. Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'y voient rien, malgré le fait qu'ils ont de la connaissance. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, la suite c'est quand même bien, non? Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Donc, le but de tout ce qu'on vient de lire, c'est de faire en sorte que nous ne branchions pas au-delà des épreuves, des combats, des luttes, etc. Ça, c'est pas les tentations, tout ça. Il faut l'accepter, ça fait partie du fonctionnement. Mais le but, c'est que nous ne branchions pas. Ces choses-là, vous avez vu, c'est des vertus qui se complètent. On ne peut pas... Vous voyez, par exemple, je me souviens, je vais vous donner un exemple pour vous aider. Lorsque j'étais jeune pasteur, je prenais certains versets à la lettre. Par exemple, quand il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre eux. Toi, lui seul, voilà, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Bon. Qu'est-ce que je faisais? Quand un frère a marché de travers, je peux vous dire que ça ne traînait pas. Ça prenait 5 minutes. 5 minutes, j'exagère. Même fait, moi, je veux dire, c'était... Je le fais. Pourquoi? Parce que pour moi, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi, lui seul. Comme s'il fallait le faire de suite. Puis, des années après, j'ai lu comment, par exemple, Dieu s'y était pris pour se révéler à David une fois qu'il avait péché. Combien de temps Dieu a-t-il attendu pour se révéler à David une fois que David avait péché? Un an. Vous comprenez? La révélation, elle est progressive. Vous voyez, au début, on peut faire les choses mécaniquement. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais ça m'a permis, au fur et à mesure que j'ai lu la Bible, de réaliser que ce n'est pas parce qu'une chose est dite qu'il faut la faire de suite. Et cette histoire-là de « faites tous vos efforts pour joindre la vertu », vous voyez, la patience, l'équilibre, etc. C'est de l'équilibre, ça. Un chrétien, il veut être équilibré. Et c'est comme ça qu'il apprend à gérer les problèmes, à comprendre les problèmes dans une église, à pratiquer la justice. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui fait... Moi, j'entends de ces choses, si vous saviez tout ce que j'entends. La Bible dit si, alors il faut le faire. Mais on prend un verset au détriment de son contexte, et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens déséquilibrés. Et moi, ma plus grande louange, ce serait qu'un jour Dieu me dise, quand je le rencontrerai, voilà, tu as fait des chrétiens équilibrés. Parce que faire des chrétiens, c'est, entre guillemets, presque facile. Enfin, presque facile. Mais faire des chrétiens équilibrés, laissez-moi vous dire que c'est quand même une autre paire de manches. Alors, on va prendre un cas ce soir. On va prendre un cas pour que vous appreniez à méditer la parole de Dieu. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir que des chrétiens prennent la Bible n'importe comment. Je vous donne un exemple qui est déjà arrivé. Quelqu'un est à l'hôpital, il s'est fait opérer, il est en vrac, il est fatigué, il ressort de l'anesthésie. Est-ce qu'il peut ne pas avoir envie de prier? Et moi, j'ai vu des chrétiens remplis du Saint-Esprit, entre guillemets, aller à l'hôpital, bien sûr. Alors, tu pries? Tu sais, ça m'est difficile en ce moment. Je suis fatigué. Tu dois prier sans cesse. Vous voyez? C'est équilibré, ça, vous voyez? Ou alors, réjouis-toi dans le Seigneur. Quelqu'un qui est dans le deuil, allez lui dire, réjouis-toi. La Bible dit, réjouissez-vous toujours, donc tu dois te réjouir. C'est pas normal que tu pleures, il est au ciel ton mari. Est-ce que vous pensez qu'on a affaire à un chrétien équilibré là? La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et ça m'est arrivé, moi, d'aller à l'hôpital, de voir quelqu'un qui était vraiment en difficulté, à deux doigts de mourir, de pleurer avec lui, parce que quand même, ça nous fait de la peine, quand même. Et l'après-midi, d'aller voir une maman qui avait accouché d'un bébé et de me réjouir avec elle. Et j'étais tout à fait en osmose avec les deux, parce que c'est biblique, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alors je prends des exemples forts, mais pour que vous compreniez qu'un disciple, c'est pas quelqu'un qui prend un verset n'importe comment et qui l'impose aux autres. Je crois pas qu'on impose, je crois qu'on partage les choses. Alors on va prendre un exemple simple. On va prendre le premier problème qu'il y a eu à l'église de Corinthe. Est-ce que vous savez quel était le premier problème de l'église de Corinthe? Comment? Oui. C'est bien, ils sont bien, ce stagiaire, il est bien. Dans l'église de Corinthe, le premier problème qui s'est présenté, c'est que les chrétiens commençaient à préférer certains pasteurs à d'autres. Tiens, est-ce que ça peut arriver, ça? Je ne sais rien. Oui, je savais que ça existe. Il y en a un qui dit, voilà, regardez, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Ce que je suis en train de vous dire, j'espère que vous comprenez mon fil. Dieu veut que lui soyons agréables. Il y a des moments de combat. Il y a des moments de repos qui dépendent des instructions. Ces moments nous amènent à être équilibrés et à apprendre à gérer les problèmes que l'on peut rencontrer dans une église. Premier problème de l'église de Corinthe, verset 11. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. » C'était une bonne église de Corinthe, mais ils avaient besoin d'être enseignés. « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. » Il y en a qui préféraient l'apôtre Paul. « Moi, d'Apollos. » Moi de Céphas, c'est-à-dire de Pierre, et certains qui étaient très, 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 très spirituels, et moi de Christ. Donc voilà un problème qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de... Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui, ça? Oui, bon, c'est normal, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ces choses-là, elles sont dans la Bible, on en a tous besoin. Donc c'était le problème de l'église de Corinthe. Alors, Paul écrit pour les aider, car... Comment devenir des gens équilibrés? Comment arriver à ne pas broncher si on n'apprend pas à régler des problèmes pratiques? Car je crois que dans une église, on doit être pratique. La spiritualité, c'est vraiment quelque chose de pratique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Alors, à la fin, regardez bien, vous le lirez. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez des chrétiens, mûrs. Je vous ai cité ce verset, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, Dieu m'a beaucoup interpellé, en tous les cas, moi, c'était pour moi certainement. Je vous ai expliqué un verset de l'Épître aux Galates, où Paul explique qu'un héritier, il ne diffère en rien d'un esclave tant qu'il est un enfant, et qu'il ne peut pas obtenir l'héritage tant qu'il est un enfant. C'est un verset qui est très très fort. En tous les cas, moi, ça m'a parlé et ça m'a repris. Vous avez compris, un héritier ne peut pas bénéficier de l'héritage tant qu'il est un enfant, il est comme un esclave, il n'y a pas droit. Mais ça veut dire pour nous les chrétiens que tant que nous restons enfants, nous ne pouvons pas rentrer dans les promesses de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Les chrétiens, ils ont 10 ans de conversion, c'est des enfants, c'est des vrais enfants. Vous voyez, ce problème de l'Église primitive, ils ne l'ont pas réglé. Bien sûr qu'on peut avoir des affinités. Je suis sûr que moi, si j'avais entendu Pierre prêcher ou Paul, j'aurais peut-être dit, tiens, je préfère le ministère de l'un ou de l'autre. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des affinités. Est-ce que c'est normal d'avoir des affinités? Est-ce que c'est interdit, les affinités? Est-ce qu'on aime tout le monde pareil? C'est de l'hypocrisie. Est-ce que Jésus avait un disciple en affection plus que notre? Est-ce que Jésus avait en affection plus Jean que Judas? Non mais, est-ce que c'est écrit que Jean était le disciple que Jésus aimait? Vous voyez? Donc, les affinités, ce n'est pas immature, c'est tout à fait normal. On peut avoir des affinités avec quelqu'un, et c'est normal, vous allez avoir une affinité avec une personne et pas avec une autre. Mais c'est normal, ne vous traumatisez pas parce qu'il y a des affinités. Mais ça peut créer des problèmes, des rivalités, comme c'était dans l'église de Corinthe. Alors, quand Dieu parle, il faut écouter. Parce que sinon, on ne deviendra jamais adulte et on ne verra jamais l'œuvre de Dieu progresser. Ce que l'on veut, c'est que l'œuvre de Dieu progresse. Vous avez envie de faire des progrès? Est-ce que vous avez fait des progrès? On est en septembre, octobre, depuis le 1er janvier, puisque le 1er janvier, vous avez pris des résolutions, vous avez dit, Seigneur, je serai meilleur chrétien. Oui, est-ce que vous l'avez fait? Mais est-ce que vous avez fait des progrès? Votre femme est ou votre mari est capable de vous le dire, en principe. Bon, des fois, je demande à ma femme, tu trouves que j'ai fait des progrès? Alors, si elle ne répond pas, je sais ce qu'elle veut dire. Mais c'est important de faire des progrès. Alors regardez bien, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Être des chrétiens équilibrés, ne pas broncher. Il y a des églises, tout le monde se décourage, tout le monde rétrograde, et ça fait mal au cœur de voir des gens rétrogradés. Ça vous fait pas mal au cœur? Si vous aviez des enfants chrétiens, ça vous ferait pas mal de les voir rétrogradés? Bon, et c'est comme ça qu'on ne rétrograde pas, qu'on ne bronche pas. Alors regardez avec moi. À la fin, regardez bien, c'est quand même quelque chose de particulier. À la fin, on va lire au verset 21. C'est la conclusion, Dieu est en train de régler un problème. Il faut que nous le comprenions. Rappelez-vous le début, parce que ma prédication, elle est construite dans le sens, il y a un début. On est agréable à Dieu quand on pratique la justice, quand on comprend qu'il y a des commandements qui font qu'on va être équilibré, le combat, le repos, qu'il y a des efforts à faire pour développer toutes ces vertus spirituelles, en comprenant les problèmes, la façon dont Dieu les règle. Et regardez ce que Dieu dit. Verset 21, que personne donc, ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Voilà l'enseignement. Est-ce que c'était bien dans l'église de Corinthe, qui est Paul, l'apôtre Paul comme pasteur, l'apôtre Pierre, est-ce que vous trouvez que c'était bien? Vous changerez bien, hein? Hein? Vous changeriez bien, dites-moi. Non? Bon, ne me dites pas. Car tout est à vous. Mais regardez bien la délicatesse du Seigneur. Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Je voudrais que vous observiez la délicatesse avec laquelle le Seigneur est en train de régler un problème. Il ne leur dit pas juste, j'ai placé dans l'église 3 ou 4 pasteurs, ils sont pour vous. Ce serait ridicule qu'il y ait 4 pasteurs qui aient la même personnalité, le même caractère, la même voix, le même âge, le même enseignement. Il vaut mieux 4 pasteurs qui soient complètement complémentaires. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu est en train de leur dire, mais réfléchissez, tout est à vous. Et voyez combien l'ennemi, ou la bêtise, l'immaturité, peut provoquer des rivalités, des comportements qui vont empêcher cette maturité, mais que l'intelligence, c'est ça les efforts. Comment Dieu s'y prend-il pour régler un problème? Eh bien, tout est à vous, soit la vie, soit la mort, les choses à venir, les choses présentes. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Non, je recommence donc. Est-ce que vous ne trouvez pas que la sollicitude du Seigneur est merveilleuse? Non seulement il leur explique, ne soyez pas dans la rivalité, soyez conscients de la grâce, tout est à vous, mais il dit, mais non seulement il y a des hommes autour de vous que j'ai placés pour vous bénir, mais en même temps, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que Paul et Céphas, il y a la vie, il y a la mort. La mort, c'est une bénédiction pour un chrétien ou c'est une malédiction? Parce que ça, c'est un sujet, moi souvent, je vois des chrétiens qui ont peur de la mort. Est-ce que vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez peur de la mort? Je ne parle pas de souffrir, parce que c'est sûr, si on vous disait, pendant 6 mois, tu vas rester à souffrir, bien sûr que personne n'a envie de souffrir. Je ne parle pas de la souffrance, je parle de la mort. Si vous avez accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, est-ce que vous avez peur de mourir? Oui ou non? Est-ce que vous pensez que ça doit être bien préparé après? Moi, je pense que oui. Le peu qui est écrit nous laisse supposer que pour ceux qui sont prêts, c'est génial de mourir. Et voyez cette grâce du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut, pas lire la Bible bêtement, mécaniquement. Moi, je la lis mécaniquement pour être continuellement. Je la lis en boucle, si vous voulez. Après, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres. Mais plus vous la lirez, plus vous comprendrez. Et cette affaire d'équilibre, car vous avez lu avec moi, si vous faites des efforts pour développer la vertu, la patience, voyez, c'était la vérité. Moi, quand un frère avait péché, que j'allais de suite le reprendre. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais je pense que la vérité, il faut l'équilibrer avec une autre vertu, justement. Avec quelle vertu il faut équilibrer la vérité? L'amour. Parce qu'au nom de la vérité, si c'est pour être intelligent, c'est pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vérité, je te le dis. Vous voyez? Moi, je crois que la vérité, il faut la dire avec l'amour. Oui ou non? Et c'est pour ça qu'il faut demander à Dieu. Est-ce que c'est écrit si quelqu'un manque de sagesse qu'il la demande à Dieu? Et vous devez quand même être capable de dire, mais je manque d'amour. Alors Seigneur, je veux rechercher l'amour. C'est écrit quelque part, rechercher l'amour? Est-ce que vous croyez que dans la présence de Dieu, Dieu peut nous donner de son amour pour aimer davantage les gens? Oui? Ben oui. C'est facile pour vous d'aimer les gens? Allez, répondez-moi. Vous aimez facilement votre pasteur? Est-ce que c'est facile d'aimer les gens? Non, c'est pas facile. Mais je veux aimer dans la vérité. Tiens, si nous recherchions justement ça, on va le faire un truc à une pastorale. Les mettre ensemble les vertus. Tiens, la patience. Avec quoi il faudrait la mettre? Parce que la patience, il y a des gens au nom de la patience, ils font plus rien. La patience, il faut qu'elle soit conjuguée avec la persévérance. On a parlé de paix. La paix, ça va avec quoi? C'est quoi le contrepoids de la paix? On a parlé tout à l'heure. Le combat. Une église doit combattre. Mais il vaut mieux être en paix pour combattre. Parce que quand les gens ne sont pas en paix, quand ils prient, ça se ressent. Vous n'avez jamais perçu de la colère dans la prière de quelqu'un? Ça vous est jamais arrivé de percevoir ça? Moi, si. Je crois qu'un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui est dans la paix. Et un chrétien qui est dans la paix, il est dans le combat. La douceur, est-ce que c'est bien d'avoir de la douceur? Avec quoi ça va la douceur? La fermeté. Et ainsi de suite, on fera ça plus tard. Mais je pense qu'on veut être des chrétiens équilibrés. Et je vous encourage par exemple à lire les Corinthiens, parce qu'on pourrait l'étudier les Corinthiens d'ailleurs. On pourrait le faire plusieurs mardis de suite, pendant une vingtaine de mardis. On pourrait voir comment Dieu, dans sa grâce, règle les problèmes qu'il y a à Corinthe, les problèmes qui peuvent se retrouver dans n'importe quelle église. Et afin que nous comprenions que Dieu donne des choses, c'est une grâce. Est-ce que c'est une grâce? Je ne parle pas pour moi, mais je le dirais si j'étais chrétien, si je n'étais pas pasteur. Est-ce que c'est une grâce d'avoir un pasteur? Est-ce que c'est une grâce? Bon, moi, je pense que oui. Bon, je voudrais vous persuader que c'est... Est-ce que c'est une grâce? Il y a des églises qui n'ont pas de pasteur. Est-ce que c'est une grâce d'en avoir deux ou trois? Oui, mais il y a plus que ça. Vous le relisez avec moi? Relisez-le. Il faut que nous apprenions à être équilibrés. Verset 21. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Je ne sais pas si vous réalisez ce que le Seigneur est en train d'enseigner aux Corinthiens. Donc, à nous. Soit Paul, soit Apollo, soit Cephas. Il aurait pu s'arrêter là. Ça suffisait. Il réglait le problème. Mais il en donne encore un peu mieux, parce qu'il nous aime. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Je ne sais pas si vous réalisez la bénédiction du Seigneur. La vie est à vous. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? La vie est à vous. Pourquoi vous vivez? Pourquoi l'avenir est à vous? Est-ce que c'est écrit ça, que Dieu a des plans pour notre avenir? Les jeunes, est-ce que vous savez que l'avenir il est pour vous? Les jeunes, les moins jeunes. Mais est-ce que vous savez que Dieu a des plans pour chacun? Vous le réalisez? La vie est à vous, même la mort, parce que Dieu, dans sa grâce, veut que nous comprenions bien que la mort, ce n'est pas une malédiction. Je pense réellement que si Dieu n'avait pas provoqué la mort dans le jardin d'Éden, la mort physique, je pense que ça serait vraiment une malédiction s'il fallait vivre éternellement sur cette terre. Vous seriez d'accord de vivre éternellement dans ces conditions sur cette terre? Moi, franchement, non. Comme c'est prévu plus tard, oui, éternellement. Donc, la mort, parce que nous, c'est la mentalité du monde, ça, qui nous influence. La mort, c'est une bénédiction. Écoutez, si vous ne le croyez pas, relisez ce verset, vous le comprendrez. D'ailleurs, Paul disait, mais la mort, c'est un gain. La mort, ce n'est pas une malédiction. La mort, pour un chrétien, c'est une bénédiction. La vie doit être une bénédiction. On doit aimer la vie, dire, Seigneur, demain, je veux faire ta volonté. Il ne faut pas que ce soit une corvée d'aller au boulot. Est-ce que le travail, c'est une bénédiction? Mais bien sûr, c'est une bénédiction. Si vous avez un travail, bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu d'avoir un travail. La vie est à vous. La mort est à vous. Les choses présentes sont à vous. Les choses à venir sont à vous. Ces choses-là devraient nous donner de l'espérance. En tous les cas, tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fin de compte, quand Dieu règle des problèmes, franchement, il est fort quand même. Vous ne trouvez pas que le Seigneur, il est bon? Non? Et je vous assure, si on apprenait cet équilibre, parce que c'est ça que je veux que vous compreniez, en plus, ça plaît à Dieu. Un homme qui pratique la justice est agréable à Dieu. Donc, quelqu'un qui se dit, voilà, Seigneur, je veux être agréable. Il y a des vertus qui me manquent. Cette disposition à être meilleur, ça me manque. Je veux être un chrétien équilibré. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel nous sera largement accordée. Affermissez votre vocation et votre élection. Il faut constamment dire, voilà, tu m'as appelé à faire certaines choses, je vais le faire. Un chrétien, c'est pas de la théologie, c'est pas de la doctrine. Bien sûr que ça doit être cadré dans la doctrine. Mais on doit vivre ces choses à l'intérieur et dire, voilà, moi, cette vie, elle est pour moi. Tu m'as donné la vie, je veux la vivre sur la terre. Je veux, après, il y aura l'éternité, c'est une chose, il y aura pas l'éternité. D'abord, il y aura le millénium, il y aura les noces de l'agneau. Parce que le programme, il est bien quand même, non? Vous avez réfléchi au programme? Il y a même une partie du menu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ceux qui aiment le bon vin, il est parlé de vin clarifié. Voilà. C'est bien? Ben oui, c'est bien. Mes frères et sœurs, combien je voudrais que nous soyons des chrétiens équilibrés. Notre monde, vous avez vu notre monde, notre pauvre monde. Vous avez vu comment vivent les gens. Est-ce que vous avez vu Encore, je regardais hier sur Google l'actualité. Le nombre de, parce que je suis tombé sur une actualité d'une actrice qui s'est suicidée, et dessous, il y avait plein d'acteurs qui sont morts suicidés. Je dis, mon Dieu, quelle détresse, quelle misère. Mais que nous, les chrétiens, nous disions, mais la vie, elle est pour moi. Le temps qui me reste à vivre, Dieu va me donner de l'espérance. Le temps que je me reste à vivre sur la terre, Dieu a prévu quelque chose. Le lendemain aura soin de lui-même. La mort, c'est une affaire qui doit être réglée. C'est David qui dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il dit oui, s'il n'y avait pas la grâce, ça serait non. C'est pas la peine de croire qu'on va y arriver par nos forces. Oui, c'est une affirmation. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'est pas dit j'aurai pas d'épreuves, j'aurai pas de difficultés. C'est pas ça. Il dit oui, dans les épreuves, dans les difficultés, la grâce de Dieu m'accompagnera. Et je veux être un chrétien équilibré. Alors mes frères et sœurs, lisez le livre de Paul aux Corinthiens. Regardez bien toute cette pédagogie avec laquelle le Seigneur règle les problèmes. Enfin, je voulais vous mettre l'eau à la bouche pour que vous méditiez ce livre des Corinthiens et voir comment Dieu a... Il n'y a que lui qui a cette pédagogie pour régler tous les problèmes. En tous les cas, si on le fait, on sera des chrétiens équilibrés. Et c'est ce que l'on veut, oui ou non? Il y a des chrétiens qui veulent être équilibrés dans ce lieu? Moi, je veux être un pasteur équilibré, j'y tiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent être équilibrés? Levez la main s'il y en a qui veulent être équilibrés. Eh bien, on va prier le Seigneur. Vous l'avez bien compris? On va demander au Seigneur sa grâce. On va demander vraiment au Seigneur sa faveur. Tous, on va demander tous ensemble. On va dire, Seigneur, on veut vraiment être ces chrétiens qui te seront agréables. Vous n'avez pas envie que dans la ville de Toulouse, il y ait une église qui soit agréable à Dieu? Vous n'avez pas envie? Non? Je vous pose une question. Vous n'avez pas envie que dans la ville de Toulouse, il y ait une église équilibrée, qui soit belle aux yeux du Seigneur, qui soit agréable à Dieu, mais ça dépend que de notre attitude face à ce qu'on vient de partager. Prions ensemble. Notre Père, tu l'as dit, qu'en toute nation, ceux qui pratiquent la justice et qui ont la crainte de ton nom, te sont agréables. Quand nous voyons, Seigneur, la façon dont tu t'y prends pour régler les problèmes, combien cela nous rassure et nous encourage. Seigneur, nous croyons, oui, que tout est à nous, tout ce que tu as mis autour de nous, la mort, la vie, les choses présentes, les choses à venir, le travail que tu nous donnes, tout est à nous. Merci, Seigneur. Nous voulons vivre ces choses. Nous voulons accepter chacun de tes commandements. Nous l'avons chanté, oui, que si on t'écoutait, Si on apprenait à te connaître, on serait heureux. Seigneur, tu nous vois, tu savais qui viendrait ce soir. Nous voulons te prier pour que tu nous donnes cette sagesse, cet équilibre qui nous permettra, devant toutes les situations que nous rencontrerons demain, peut-être tout à l'heure, d'avoir les mots qu'il faut pour que sortent de notre bouche des paroles de grâce pour aider les uns et les autres. Seigneur, merci pour les pasteurs que tu mets sur notre chemin, merci pour les amis, merci pour les situations. Oui, nous acceptons cette parole, Seigneur, que tout est à nous, la vie comme la mort, le présent comme l'éternité, que tu as tout mis et que tu as tout préparé, mon Dieu, que ton nom soit béni. Nous te prions pour tous les gens, oui, que nous côtoierons. Tu vois, dans l'Église, tes enfants qui sont confrontés en ce moment à des moments difficiles, qui doivent aider ceux qui sont dans le deuil, communique-leur ta grâce, Seigneur, afin que vraiment nous soyons ces sources de bénédiction. Nous ne voulons pas que ce soit des mots, de la théologie, nous voulons vraiment expérimenter ces choses. Oui, nous voulons être de ces chrétiens qui ne broncheront pas et qui auront la joie de t'être agréable. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette faveur de t'être agréable. Merci, Seigneur Jésus. Amen.